c'est l'heure du JT.
Il est pratiquement 19h, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour passer ce week-end dans votre compagnie.
Putain,
ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat. Voilà.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation de la part du gouvernement ?
Fausses offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini,
ce maillot, connerie, cette fois si, c'est sûr, je l'éteins là, je l'éteins la télé, même je l'éteins à tout jamais, tu vas voir ce qu'elle va voir, c'est qui ?
Oh, René ! Tous les vendredis, c'est pareil, une télé explosée, hein ? La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
Vous êtes à l'écoute de Radio Canu et c'est l'heure du Canu Info. Et aujourd'hui, dans le Canu Info, on va parler de quoi ?
Eh bien, on va commencer par un super entretien avec des lycéens et des lycéennes qui sont avec nous en studio et qui sont mobilisés contre la réforme du bac notamment, mais pas que.
Et ensuite, on verra comment un lycéen s'est pris un zéro sur son bac pour un commentaire sur son compte Instagram.
On enchaînera avec notre fameuse rubrique nucléaire, la grève dans le nucléaire, pardon, pour un travail radio.
Ensuite, on vous passera un reportage sur l'envahissement de la galette.
Et puis on ira du côté de Bure pour vous parler d'une farandole d'activités féministes et antinucléaires.
On verra aussi comment il y a un journal de la recherche d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une nouvelle mesure de contrôle des chômeurs et chômeuses testée en Indre-et-Loire. Je ne sais pas où c'est l'Indre-et-Loire, mais ça on l'apprendra.
On parlera également de grenades Gliev 4, de faux retraits annoncés par Castaner et de nouvelles grenades avec un peu plus de TNT qui fait encore plus mal.
Ensuite, il y aura un reportage de Radio Parleur sur les gilets noirs.
Et puis on viendra bien à Radio Canum pour vous donner les bons plans parisiens pour remplir les caisses de grève.
Et ensuite à l'international, hashtag je ne suis pas un virus, le coronavirus comme prétexte au racisme anti-asiatique.
Et puis on vous parlera également de Suisse romande et de Molène avec la réouverture d'une bibliothèque féministe. Et on terminera bien sûr par
l'agenda.
Bonne écoute sur Radio Canu, il est 19h04.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rhône de la région qui s'appelle Stéphane Boulet.
Et en région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Ce reportage sur la grève qu'on a vu à les interjouer pendant la masse du rassemblement pour le Rhône de la région qui a eu lieu à Lyon. Canu Info du vendredi.
Rubrique locale.
Et au local, on est hyper content et contente au Canu Info du vendredi de recevoir trois lycéens, lycéennes et prépa du lycée Édouard Herriot et du lycée Saint-Exupéry qui sont donc du coup en mouvement contre un certain nombre de choses depuis environ le 5 décembre, même si bien sûr les mouvements dans les lycées ça existe depuis bien plus longtemps. Est-ce qu'on peut commencer d'abord du coup par voir pourquoi vous vous mobilisez ?
Oui, alors du coup nous on est du coup des bon, moi je suis lycéen. Je suis en seconde et j'ai commencé du coup à mobiliser cette année dans mon lycée. On se bat contre les violences policières déjà On s'est aussi greffé sur le mouvement du coup contre la réforme des retraites, contre Parcoursup et contre en général les inégalités, mais du coup moi là sur les violences policières qui du coup sont mises en place déjà sur le mouvement sur tous les mouvements sociaux en grande partie. Et là, d'autant plus du coup sur les mouvements lycéens qu'on a pu avoir là cette année, où il y en a un lycéen en père qui s'est pris un LBD du coup dans la tête, des lycéens qui se sont fait matraquer, gazer, qui sont allés en garde à vue, là qui se retrouvent avec des plaintes récemment.
Et oui, moi j'ajouterais aussi que oui, voilà, en fait de base c'est parti depuis le 5 décembre d'un mouvement contre la réforme des retraites. Et peu à peu, en fait, on se rend compte, et même pas peu à peu, que c'est juste une réforme de plus qui renforce les inégalités et qui instaure un tri social. Et je pense que la répression policière, c'est une répression qui s'oppose en fait à la lutte. Et c'est pas un détail, mais je pense qu'il faut répondre par la lutte. Et voilà.
Et peut-être juste une question pour d'introduction. Vous êtes lycéen, lycéenne dans quelle ville et où ça?
Nous c'est à Edouard Herriot, donc un lycée de Lyon dans le 6e. Moi je suis en prépa littéraire et du coup on est aussi mobilisés avec les lycéens, donc c'est important de le dire parce que c'est pas anodin qu'une prépa soit mobilisée.
Et quand on parle du mouvement lycéen en ce moment, on parle beaucoup aussi de l'E3C. Qu'est-ce que ça veut dire l'E3C?
Bah, les E3C c'est le contrôle continu du bac qui concerne, moi je suis en terminale, mais là ça commence par les premières de cette année. Et en fait, ils ont déjà eu leur bac. En fait, leur bac commence. Et en fait, oui, les lycéens, même les professeurs commencent à se mobiliser. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de professeurs qui ont eu les sujets il y a un mois, quoi. Enfin, un mois et demi. Et il y a beaucoup de lycées qui ont abordé des sujets pendant le bac qu'ils n'ont jamais étudié de l'année. Et des lycées, par exemple, où les professeurs ont divulgué les sujets aux élèves. Voilà, c'est un bac qui est hyper inégalitaire. Et déjà que le bac, même d'avant, en fait, c'est quelque chose qui renforce un esprit de compétition. Là, il s'ajoute dès la première. Et ça augmente le stress. Et ça renforce cet esprit de compétition-là.
Parce que le principe, c'est l'idée d'un contrôle continu dès la première qui remplace une partie des notes qui étaient donné lors de l'examen en fin de terminale, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et est-ce que c'est pas lié aussi du coup à la réforme du lycée aussi qui vient créer en fait des lycées en fonction de dans quel lycée on est, on va avoir accès à différentes options?
Ça suit en fait totalement la réforme Parcoursup contre laquelle les lycéens et lycéennes de Lyon s'étaient déjà mobilisés et de toute la France, et aussi tout ce qui est par rapport aux profs. Il y a des profs qui nous expliquaient qu'il y aura des suppressions. Le but, c'est ça aussi, c'est supprimer des postes, c'est faire du tri, de former des premiers de cordée, de continuer à créer et à encourager entre guillemets l'élitisme en fait qui est déjà présent. Et les E3C, c'est juste la continuité de ça, et c'est pour ça que notre lutte elle est aussi dans la continuité des contestations contre Parcoursup et contre toutes ces réformes en fait qui font que accroître les inégalités entre élèves et accroître cet esprit de compétition et d'être meilleur que les autres en fait, et que ce que nous on conteste, enfin je pense pour la plupart.
Oui.
Parce que du coup, concrètement, ce qui se passe, c'est que là, si on vient d'un lycée de centre-ville, on a accès à beaucoup plus d'options. Du coup, on aura un bac de meilleure qualité qu'une personne qui serait dans un lycée plutôt de la banlieue et qui, du coup, aurait accès à beaucoup moins d'options et beaucoup moins de diversité et accéderait ensuite peut-être à des formations supérieures moins prestigieuses.
Oui, c'est ça. On a du coup des lycées de plus de banlieue où on va avoir que quelques options qui vont être proposées. Et donc, ils vont être limités à ces options-là parce que ces personnes, du coup, du lycée de banlieue, elles n'ont pas forcément la possibilité d'aller dans un lycée, du coup, plus de centre-ville ou d'autres options qui voudraient seraient proposées. Parce que, du coup, ces lycées dans ce centre-ville-là ne prennent pas forcément, du coup, des élèves de banlieue. Ils vont prendre, du coup, les élèves de secteur qui, du coup, sont déjà assez aisés, en fait. Et du coup, la population, du coup, qui l'est moins, ne peut pas accéder à les formations qu'elle voudrait. Ça les oblige, du coup, en fait, c'est un peu de l'entre-soi qui est fait, du coup, par ces populations aisées, du coup.
Et les évaluations de 3C en contrôle continu, est-ce que ce sont les mêmes dans tous les établissements, comme autrefois le bac, ou est-ce que ce sont des évaluations qui sont différentes selon les établissements?
Bah, les sujets ne sont pas les mêmes en fait, en fonction des établissements.
Et c'est ça aussi qui rend le bac à la carte est très inégalitaire.
C'est ça. Et puis là, pour l'instant, enfin, les lycéens souhaiteraient quelque chose de déjà plus anonyme et plus égalitaire.
Les épreuves de 3C en fait, elles sont choisies vraiment par lycée, donc c'est aucun lycée presque n'aura les mêmes épreuves. Hein. Les profs choisissent trois sujets, je crois, dans une banque de données du coup qui est donnée par l'État. Et dans ces trois sujets-là, il y en a un qui est tiré au sort et qui est donné du coup aux élèves de lycée. Mais du coup, par exemple au lycée Herriot, il doit y avoir 5 ou 6 sujets d'histoire, enfin 5 ou 6 chapitres d'histoire, donc 5 ou 6 sujets possibles. Et un syntaxe, je crois que vous en avez eu que 2 ou 3 seulement de sujets d'histoire. Donc il y a aussi ce niveau-là d'inégalité, enfin, parce qu'en fonction du lycée d'où on vient, on n'a pas forcément du coup la même, le même nombre de sujets possibles. Donc,
Et donc la valeur du diplôme pour l'orientation notamment ne sera pas reconnue de la même si vous avez un bac à Vouvenvelin par exemple ou au centre-ville de Lyon.
On sait très bien aussi que Parcoursup il sélectionne souvent en fonction du lycée d'origine. Et ça continue pareil là-dedans, hein, c'est toujours la même chose.
Et puis de toute façon, c'est un peu extrême, mais bac ou pas bac, oui effectivement avec Parcoursup qui instaure une sélection, il y a beaucoup, il y a énormément d'élèves l'année dernière qui se sont retrouvés sans fac à cause de la sélection. Moi personnellement je suis même pas sûr d'avoir une fac l'année prochaine, et il y a beaucoup de cas Il y a beaucoup de cas.
Et donc face à tout ça, vous vous mobilisez. Du coup, qu'est-ce que vous avez pu faire pour vous mobiliser du coup depuis début décembre à peu près ?
On a fait pas mal d'actions. Le principal, enfin ce qui est le plus visible et ce dont on parle le plus en ce moment, donc c'est les actions de blocage. Donc en fait, on vient très tôt le matin, beaucoup plus tôt que pour aller en cours. Donc ceux qui disent qu'on fait ça par fainéantise, c'est faux. Et on bloque nos lycées avec des poubelles, enfin un peu tout ce qu'on trouve. Et après, ça passe aussi par les AG, la distribution de tracts. En fait, le blocus, c'est quelque chose qui est très visible, mais c'est un peu que la partie émergée, on va dire, de notre lutte. Parce que ce qui est cool et ce qui permet le blocage, c'est en fait de montrer que c'est collectif. C'est-à-dire que c'est pas, par exemple, pour la réforme de retraite, c'est pas chacun dans son coin qui va aller à la manifestation. C'est on bloque, on y va ensemble et on affirme nos opinions politiques qui sont différentes. Hein. Mais on affirme qu'on a une position politique ensemble et collectif. Et on s'organise ensemble de manière autonome et collective. Et c'est ça aussi qui est intéressant, je pense, dans nos luttes.
Tout a été dit. Et du coup, ce qui s'est passé, a priori, là, c'est quand même que du coup, il y a eu des blocages pendant les concours blancs, du coup, des prépas, et pendant aussi les épreuves du bac, en fait, finalement. Ce qu'on appelle le 3C, c'est le bac.
Oui.
Oui, du coup, ouais. Après, les concours blancs, du coup, c'était vraiment, à mon avis, spécifique à Herriot. Parce que du coup on a fait ça dans la continuité de suivre aussi un peu les grosses journées de grève, les appels à la manifestation qu'il y avait à Lyon. Donc on a bloqué 2 fois avant les vacances à Herriot le 10 décembre et le 17 décembre. Ces 2 jours-là il y avait un concours blanc pour les prépas, mais oui on s'était coordonné avec d'autres lycées de Lyon aussi, parce que du coup il y a un comité interlycéen de Lyon qui a commencé à se créer, qui s'est créé d'ailleurs. On s'est coordonné pour savoir quel lycée bloquait, voir si on pouvait envoyer des gens à ces lycées-là, se retrouver après, essayer de créer un cortège lycéen aussi en manif pour qu'on puisse du coup bien nous voir et montrer que les lycéens étaient présents.
Et aussi, ce qu'il y a, c'est qu'on a une très mauvaise diffusion médiatique. C'est-à-dire qu'on entend vraiment très peu parler des lycéens qui se mobilisent, qui bloquent nos lycées. Beaucoup d'élèves, quand on bloque nos lycées, se sentent soit pas concernés, soit ne voient pas d'intérêt à ça. Du coup, c'est important de préciser aussi que pendant nos blocus, on fait pas juste bloquer le lycée, bon, ce qui a déjà un impact à échelle, qui pourrait avoir un impact à échelle nationale. Mais aussi, on va discuter aux gens, on va les sensibiliser à ça et leur expliquer pourquoi on fait ça et les inciter en fait à nous rejoindre malgré, parce qu'il y a aussi l'enjeu des absences, Parcoursup et des parents.
Juste sur la question des examens, du coup, enfin, juste les concours blancs, nous en prépa, on est préparé du coup de base, enfin, on est robotisé, on est formé pour avoir un concours, donc à la fin des deux ans. Donc, ils nous préparent, ils nous apprennent à être compétitifs, etc. Ce qui est extrêmement pénible. Et le fait, en fait, je pense que Aerio, ils ont eu très peur, et c'était là où c'était vraiment important, c'est que le fait d'avoir bloqué pendant les concours blancs, donc ce qui prépare à notre concours, en fait, c'est clairement de dire la compétition, le concours, tout ça, on s'en fiche, il y a plus important, c'est ce qui se passe dans la rue, c'est ce qui se passe au niveau politique. Et pareil, le fait de bloquer les 3C, donc de dire non à un examen, c'est extrêmement symbolique et fort, et c'est cool quoi. Enfin, des prépas qui se mobilisent comme ça, qui arrêtent leur concours blanc et qui ne les passent pas, c'est vraiment important pour dire bah en fait vous essayez de nous monter le cerveau parce que c'est clairement ce qu'ils font, mais ça marche pas en fait, et bah on s'en fiche, il y a plus important, et c'est bien, enfin c'est ultra important.
C'est ça, et oui, même pendant les E3C, quand on voit dans énormément de lycées en France, là il y a plus de 10 lycées qui ont fait des actions par rapport aux E3C à Lyon. En fait, rien que le fait de voir des lycéens qui, pendant le bac, sabotent un examen de bac et disent bah non, cette fois-là on passe pas notre bac, cette fois-là on en a marre, cette fois-là on va se faire entendre, c'est quelque chose, oui, effectivement, de très très fort, et je pense que c'est un. Peu à peu, c'est un mouvement en voie d'effervescence.
Et par rapport, enfin, on en parlait tout à l'heure du coup, mais par rapport à ça, justement, en fait, ça montre que en tant que lycéen prépa, on va plus être dans une demande, enfin, à l'administration, à ceux qui sont au-dessus, et qu'en fait on va entrer dans une dynamique de résistance quand on voit les lycéens qui déchirent leurs copies. Là c'est plus la demande en fait, c'est de la résistance, et je trouve ça super intéressant au niveau politique, même si on n'a pas du tout les mêmes cultures politiques, on n'est pas formés pareil, etc. C'est là où c'est intéressant aussi, mais au moins on arrive dans une dynamique de résistance, et on n'attend pas que les choses elles viennent d'en haut, on n'attend plus que les choses viennent d'en haut, et on s'organise entre nous, et on arrête de demander, parce qu'en fait on sait très bien que ça marche pas en fait, et du coup c'est pareil, genre, c'est ultra important, je pense qu'on peut dire qu'on est lycéen lycéenne en résistance et pas juste en demande en fait, ou même en opposition.
Et du coup, sur ce que tu dis là, du coup, comment est-ce que concrètement vous vous organisez? Est-ce que vous mettez en place des AG? Est-ce qu'il y a des leaders? Est-ce qu'il y a des leaders? Est-ce qu'il y a quoi?
Oui, alors du coup, pour s'organiser, dans chaque lycée qui se mobilise à Lyon, en tout cas, on fait des AG le plus régulièrement possible pour essayer de se mettre d'accord sur les modes d'action qu'on va avoir. Savoir si on veut bloquer ou pas, essayer aussi de ramener un maximum de gens, se mettre d'accord sur des jours de tractage, du coup, pour essayer d'amener les gens à la réflexion, même s'ils sont pas forcément d'accord avec nous. C'est toujours intéressant de, un matin, avant du coup les cours, se mettre devant le lycée, arriver un peu plus tôt et tracter, et essayer de discuter avec les gens, avoir un peu leur point de vue à eux aussi sur les actions qu'on a pu faire, et savoir ce qu'ils en pensent en fait, du coup, de cette réforme du bac, de la question de la réforme des retraites aussi, des violences policières, et les amener eux à la réflexion, à des lycéens qui sont pas spécialement stimulés à ce niveau là et les amener à la réflexion, et même si c'est pour qu'au final ils soient contre, c'est dommage, mais pour nous, mais oui, ça les amène à la réflexion, et c'est vraiment voilà, le but aussi de nos AG et de nos tractages.
Aussi, on essaie de s'organiser pas que entre lycéens, c'est-à-dire que dans le comité interlycéen de Lyon, bah déjà on fait régulièrement des AG, minimum une fois par semaine, et on s'organise pour que chacun aille, par exemple telle personne va à une AG de prof tel jour, pour se coordonner avec les profs, d'autres on essaye de passer à une AG de cheminots par exemple, d'étudiants, et en fait voilà, de se dire bon, on sera tous dans le même bateau. Alors autant parler entre nous, malgré l'âge et malgré les métiers.
Et ce qui est important de soulever aussi, c'est qu'effectivement, on n'a pas de leader, on n'a pas de représentant. et on n'a pas de hiérarchie au sein de, en tout cas, Aerio à Syntex. Et ça, c'est ultra important aussi de le dire. C'est-à-dire qu'on arrive à s'organiser de manière non hiérarchisée. Et ça, c'est grave cool de le faire, je pense, à notre âge. Et même si c'est pour voilà, des blocus, des choses comme ça. Et c'est aussi bah, la force collective. Et même s'ils essayent d'identifier des leaders, des têtes, il n'y en a pas. Et on s'apprend tous collectivement et tout. Et il n'y a pas de personne plus importante que d'autres. Et c'est vraiment une notion qui nous tient à cœur. Nous, dès la première AG à Rio, on l'a dit, on ne veut pas de leader. Et c'était vraiment important, ça nous tenait à cœur.
Et oui, on voit, on voit que c'est en effervescence. Par exemple, l'année dernière, pour Parcoursup, les lycéens, on était... Enfin, c'est l'impression que ça me renvoie. On était beaucoup moins organisés, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de partis qui essayaient de venir nous voir et nous filer des drapeaux. Et bon, il y avait beaucoup de lycéens qui prenaient un drapeau sans vraiment... Très bien. Alors que oui, là, on a notre place dans le cortège. Avec, à côté des étudiants, on a notre banderole. Et oui, voilà.
Et du coup, j'imagine que c'est pas tout formidable et vous subissez un petit peu de répression, que ce soit policière ou administrative. Est-ce que par exemple, vous pourriez nous reparler de, bah, je sais pas, de la journée de mercredi, de qu'est-ce qui a pu se passer
Tu veux commencer?
Mercredi, il s'est passé une. On est allé, bah, par exemple, Syntex est allé aider Ampère Bourse à. Déjà, pour l'instant, au début, à bloquer le lycée. On y allait. Ampère, Syntex. On a bloqué le lycée. On a mis des poubelles. Bon, sachant qu'il y a beaucoup de sorties, beaucoup de portes, c'est pas très évident. La police est arrivée. Il y a eu vraiment des contacts physiques avec des lycéens qui forçaient le passage. On a un petit peu forcé au bout d'un moment. La police, en fait, a pris le dessus et nous laissait plus rien faire parce qu'on n'était pas non plus 800 lycéens. Et au bout d'un moment, en fait, c'était pendant les épreuves des E3C d'Ampère. Et au bout d'un moment, on est à plus de 100 lycéens. On a forcé la porte, enfin, c'est-à-dire quand la principale a juste ouvert la porte pour laisser passer deux collégiens, on a poussé, on a forcé la porte et plus de 100 lycéens sont entrés dans le lycée, dont des lycéens de Saint-Exupéry. On est rentré dans les salles. On a. Honnêtement, bah, on a foutu un petit peu le bordel pendant les épreuves. On a renversé des tables. On a fait des discours. Leur dire, bah voilà, pourquoi c'est pas bien. Des sujets ont été déchirés. Et on les a incités à nous rejoindre. Ensuite, la police nous attendait à toutes les sorties. Et la proviseure a déposé plusieurs plaintes contre des élèves. Trois élèves de Syntex et des élèves d'Ampère. Là, pour trois élèves de Syntex, il y a une commission éducative qui a lieu. Voilà, pour nous dresser un petit peu.
Du coup, là, à Ampère, moi, ce que j'avais entendu, c'est que du coup, les flics sont carrément rentrés dans le lycée, coursaient les élèves dans le.
Bah, carrément, ils sont entrés dans les couloirs. Et ouais, bah, c'était. C'était un petit peu comique, on est arrivé à un stade où à un moment on s'était planqué avec des camarades dans les toilettes et enfin comme dans un film quoi, on entendait les flics ouvrir chaque porte et ça se rapprochait à côté de nous et enfin on se rend compte un peu de l'absurde de la situation. Et pareil récemment à Vienne, on a un lycée de Vienne qui est dans le comité interlycéen de Lyon, plus de 1000 personnes sont descendues en assemblée générale dans la cour, 400 élèves sont allés bloquer les E3C et là en fait là où c'était très absurde, où ça retourne un petit peu la situation, c'est que la police s'est retrouvée à aller surveiller les E3C, à se foutre devant les portes pour empêcher les élèves de les perturber.
Et pour revenir sur Ampère, moi j'ai eu des récits du coup de personnes qui n'étaient pas forcément dans le blocus des E3C, qui se sont fait courser par la police, parce que la police, une fois qu'ils étaient dans le lycée, c'était des lycéens, on les tape. Et vraiment courser n'importe qui, sans distinction. Pour les lycéens qui sont sortis un peu en avance, du coup, parce que ceux qui ont pris des plaintes, ceux qui sont restés malheureusement dans le lycée, qui s'étaient un peu perdus, et du coup, qui se sont tombés sur l'administration. Mais ceux qui ont sorti avant, c'était matraquage à la sortie, où ils se sont fait courser dans le quartier d'hôtel de ville, un peu par le CRS, gendarmerie et tout. Donc c'était vraiment, vraiment une assez grosse répression à Ampère.
Moi, je me suis, enfin, ça me fait penser à une image à Rio, parce qu'à Rio, on a eu la BAC, ce qui est complètement inadmissible, anormal, et enfin, c'est complètement dingue. Et la BAC, en fait, elle est venue en premier. Ça aussi, c'est clairement pas normal. Et en fait, il y a une image où, en fait, quand ils ont débloqué, donc ils ont enlevé nos poubelles, etc., ils se sont mis devant le lycée. Et même quand les élèves, donc ils ont fini par tous rentrer, etc., les flics étaient en ligne, ils ont fait un espèce de cordon, je sais pas, quasiment. En fait, ils étaient en haut des marches et ils bloquaient l'entrée du lycée, ils laissaient passer, rentrer les gens, mais voilà. Et en fait, enfin, là, je me suis dit, waouh, genre, nos lycées, ils sont occupés par les flics, en fait. Enfin, genre, c'est censé être un espace, quand même, qui doit appartenir, enfin, qui c'est pas le cas, mais qui devrait appartenir aux lycéens, aux lycéennes, aux étudiants et étudiantes. Et en fait, non, ça appartient à l'État, ça, et ils nous le font bien savoir. Ça appartient aux flics, et ils étaient là. Et moi, ça m'a trop choquée, en fait, de voir ça. Ça m'a complètement révoltée. Et je ne m'attendais pas du tout à voir ça, surtout à Rio. Bon, d'un côté, ça veut dire qu'on leur fait un peu peur, du coup. Voilà. Mais c'est grave. Et en fait, il n'y a eu aucune réaction des profs par rapport à la présence de la BAC, par rapport à la présence des flics dans le lycée. Et je trouve ça juste dingue, en fait, de voir des images comme ça. C'est terrible, surtout qu'à Rio, on est beaucoup trop gentils, quand même. Donc voilà, c'est grave.
Et c'est pas un cas isolé à Mélan en Isère, donc c'est pas la même académie, c'est l'académie de Grenoble. C'est hier, la gendarmerie, le lycée était bloqué pour les mêmes raisons par quelques professeurs et des élèves, et les gendarmes sont rentrés en force dans l'établissement et ils ont arrêté un jeune lycéen qui a priori se serait moqué de lui, ce qu'il conteste, les professeurs aussi le contestent, et ils lui ont écrasé la tête par terre, menotté dans le dos, embarqué, et les lycéens et professeurs qui ont suivi pour essayer d'empêcher ça se sont fait violemment gazer. Mmh. Il y a un communiqué qui est sorti tout à l'heure, justement. Ouais.
Et à Bordeaux aussi, j'ai vu un communiqué de lycéens qui se sont fait enfermer dans leur salle pour passer aux autres AC, pour pas qu'ils puissent bouger. L'alarme incendie avait été éteinte. Pour pas que du coup, parce que ça c'est un truc qui a tourné un peu, essayer de mettre en place l'arme incendie pour que les, du coup pendant les 2-3C tout le monde doive sortir. L'arme incendie dans ce lycée là avait été arrêtée pour pas justement qu'il y ait ce mode là, et oui, les lycéens étaient enfermés dans les salles et c'était, enfin c'est pas normal en fait.
Ouais.
Et la répression passe aussi par la note à La Rochelle, à l'ouest de la France aussi, il y a un lycée qui a été bloqué la semaine dernière, le 20 janvier. Et il y a des parents d'élèves qui ont demandé à ce que les élèves puissent passer le rattrapage comme tous les autres. Il y avait une centaine d'élèves qui bloquaient le 20 janvier. Et c'est un peu ce que tu disais, ils ont essayé de trouver des leaders dans ceux qui bloquaient, enfin des espèces de personnes qui organiseraient le tout. Et il y a 17 élèves qui ont eu un zéro, impossibilité de repasser leurs épreuves, parce que ce qui a été... preuve aggravante, c'est qu'ils étaient abonnés à un compte Instagram qui appelait au blocage. Et c'est ça qui a été mobilisé. Et c'est la lettre du proviseur aux parents annonce ceci.
Et à Rio, on a eu un élève, du coup, à qui l'administration a dit « Bon, bah, moi, je te garde ta copie, je la scanne pas pour l'instant, on attend les directives du rectorat pour savoir si on la scanne ou pas, ta copie. » Donc, en gros, c'est ou zéro ou pas, et c'est le rectorat qui décide ça. Donc, ouais.
Ce qu'on voit dans la répression, déjà, ça donne le vrai visage de l'école française, qu'on nous montre comme libre, etc. En fait, elle est juste sous domination de l'État. Et ça, c'est important de le dire. Et aussi, justement, par rapport au truc des leaders, à Rio, et je pense dans la plupart des lycées, en fait, ils pointent des élèves du doigt en disant, en fait, il y a deux personnes qui ont embrigadé tout le reste. Et c'est vraiment cette volonté toujours d'identifier des chefs, d'identifier... Et en fait, ils font ça parce qu'en tant que lycéens, lycéennes, étudiants, étudiantes, on est ultra vulnérables parce qu'ils nous connaissent, ils nous voient, et c'est ça aussi, on n'est pas... anonyme en fait. Et le fait d'identifier des leaders, ça isole quelqu'un d'un groupe, et en plus ça donne pas de légitimité aux autres dans leurs actions, etc. Et ça, comment dire, en fait ils essaient de fragmenter les groupes. Nous on voyait bien notre proviseur, ils essayaient de nous diviser, ils ont même ils ont pointé certains élèves du doigt qui avaient organisé, enfin qui donnaient les temps de parole en fait en AG, en disant aux autres lycéens, les laissez pas prendre le pouvoir. Enfin, donc c'est vraiment cette volonté là d'identifier des leaders alors qu'il y en a pas. Et c'est vraiment caractéristique de toute façon de la répression en général et surtout dans les lycées parce qu'ils nous voient et ils nous fichent et c'est une réalité. Nous, on a bien vu, ils prenaient nos noms, nos prénoms, ils envoient des lettres aux parents, mais de manière complètement arbitraire. Après, une fois qu'ils ont un élève qu'ils ont identifié, et ben, ils continuent, ils mettent encore plus de pression et c'est juste terrible.
Et là où je trouve ça vraiment choquant, c'est-à-dire que... Nous, par exemple, les lycéens, on est un petit peu la cible de la répression. Bon, il y a énormément de répression, que ce soit chez les... Enfin, chez tous les grévistes. Mais là où c'est choquant, en fait, c'est que c'est vraiment... Tuer la... Quand il y a, en fait, qu'il y a une conscience politique qui commence à se créer, c'est vraiment la tuer dans l'œuf. Et même vis-à-vis de la commission éducative qui va avoir lieu à Saint-Exupéry, c'est quelque chose... Où en fait ils vont te faire la morale pendant deux heures en disant bah ça c'est pas ça, t'as pas le droit de faire ça. Et vis-à-vis de la pression administrative, même la pression administrative, là le proviseur de Saint-Exupéry a menacé de mettre des mauvaises appréciations pour Parcoursup aux élèves bloqueurs. Et ouais, c'est tuer la conscience politique dans l'œuf et anéantir, faire une bonne génération classée. Mmh.
Et alors, du coup, je suis désolé, ça va être un peu frustrant. On va devoir arrêter là.
Pas de problème.
En tout cas, c'était super. Je hurle juste que vous vouliez que je dise, enfin, que vous vouliez dire par ailleurs. Juste parler, du coup, en gros, de la réaction des profs qui viennent aux AG, qui viennent un petit peu au blocage, mais pas tellement. Notamment parce que soit ils ne sont pas concernés, mais aussi parce qu'ils peuvent subir des pressions de leur direction ou de leurs collègues. Que vous organisez, du coup, au sein du comité interlycéen de Lyon, que va y avoir une coordination nationale de lutte, que vous avez fait des caisses de grève en soutien aux profs, et que vous aviez quand même du soutien extérieur avec des caisses de solidarité qui viennent de la fac et puis de la caisse de Sceaux. Et du coup, si jamais on veut vous retrouver, vous aider, vous rejoindre, vous suivre, il y a une adresse mail. Et ça serait quoi cette adresse mail?
Du coup, c'est tout en minuscule, comité-interlycéen avec un S-lyon @protonmail.com.
Okay. Et les tirés, c'est lesquels?
Tirés du haut.
Du milieu, ouais.
Le 6, quoi.
Oui.
Et okay. Tu peux le redire?
Comité-du-milieu, du coup, interlycéen avec un S, tiré du milieu Lyon, @protonmail.com.
Et mettra... Proton, ça s'écrit ouais. P-R-O-T-O-N.
On mettra l'adresse sur le podcast de l'émission. Et on parlait profs. Les profs sont allés faire une petite action à Lyon sur le plateau de la Croix-Rousse, dans un local LREM qui offrait la galette et le champagne. Une camarade y était. On écoute ça tout de suite. Et encore merci d'être venu en plateau.
Excusez-moi, on va où là?
Là on va dans une petite salle où est organisée une réunion publique de l'REM sur la réforme du bac.
On va y participer?
Alors je sais pas, parce qu'en arrivant en groupe comme ça, je pense qu'on va vite se faire griller. Et vu que l'accès est quand même fermé et qu'il faut... Mais on est plusieurs à avoir donné soit des faux noms, soit des noms pour y participer, donc on s'est inscrit. Donc en théorie on est plusieurs à avoir notre place réservée, donc on va voir ce que ça donne.
Bah, je pense qu'on va annuler notre...
Ah bon, oh,
tu peux bien dire un mot sur la réforme Blanquer?
Sur la réforme Blanquer,
enfin,
qui désorganise donc complètement nos enseignements, les a déjà tronçonnés avec les programmes, qui sont eux-mêmes assez stupides et nous empêchent de faire des apprentissages sur le long terme, de développer des méthodes sur le long terme, un esprit critique, et notamment avec ces épreuves qui arrivent très tôt pour les élèves de première.
Les E3C, nous,
ouais.
Nous on les passe, on est en première. Du coup, on vient de les avoir, nous, à Saint-Ex, on les a passés la semaine dernière. Et on les a encore en avril en fait, donc voilà, on est en plein dedans nous, donc on sait même pas à quoi s'attendre, enfin les épreuves sont différentes pour tout le monde, enfin c'est hyper flou et voilà, donc en fait là on est censé continuer le programme et avoir des E3C du nouveau programme du coup en avril, enfin c'est n'importe quoi et juste même les profs sont même pas au courant et...
Okay, ouais.
Ils essayent de faire au mieux, mais ils sont carrément contre aussi, enfin la majorité en tout cas à Saint-Ex. Et donc pour moi, c'est juste mettre la pression aux élèves à partir juste de la première jusqu'en terminale. Il n'y a même pas le goût d'étudier ou quoi que ce soit, puisqu'on sera juste dans l'esprit du bac, mais juste ça fout trop la pression.
Les E3C, c'est dégueulasse.
Alors en fait, c'est la disparition du caractère national du bac, avec une grosse, grosse injection de contrôle continu qui va localiser les bacs et donc du coup créer des bacs locaux donc en fonction de l'établissement où tu vas le passer. Ton bac n'aura évidemment pas la même valeur puisque dans Parcoursup après, vu qu'il y a une sélection maintenant dans le supérieur, eh bien, en fonction d'où tu viens, tu n'auras pas forcément accès aux mêmes formations.
Pour manger de la galette, parce qu'il paraît que LREM paye sa galette.
Et vous allez aller sur la table pour choisir les rois et les reines.
Je pense que le but, c'est un peu de renverser la table quand même, mais on va voir. Et puis de ne pas les laisser tranquilles surtout. Se dire que quoi qu'ils fassent, il y aura toujours des gens pour leur rappeler qu'ils sont en train de détruire les services publics.
En gros, c'est une action qui a déjà eu lieu sur Lyon. Il y a deux semaines, la République En Marche s'était rejoint dans un bar dans le premier arrondissement. Il y avait déjà eu 30 personnes qui étaient rentrées dans le bar pour chanter pendant une demi-heure. On n'avait pas pu accéder à l'étage où la réunion se tenait. On avait demandé aux macronistes de descendre pour discuter avec nous. Ils s'étaient cachés dans un coin, ils avaient appelé la police. Et là, c'est reproduit ce soir. Et là, c'est encore plus nombreux. Là, on doit être 80, 90. Donc ça montre la détermination de ouf des gens.
On va être obligé de fermer la salle.
Parce que en 86, c'était la première fois que j'étais interviewé par Radio Canu et là c'est la deuxième fois. Mais à l'époque j'étais allé dans les locaux pour expliquer la réforme de Vaquet à l'époque. C'était une réforme qui amenait à beaucoup plus de sélection dans les universités et ça avait déclenché un mouvement étudiant très fort. Bon là on avait gagné au moins. On avait gagné de l'avoir retiré sans sa réforme.
Super cette action, j'ai adoré.
T'as mangé de la galette?
Non, par contre, j'ai bu un peu de champagne.
Il était vraiment très bon.
Moi, j'ai la galette et on n'a pas eu le droit. Voilà.
Canu Info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Et aujourd'hui, dans la rubrique nucléaire, on va vous parler de la grève, puisque effectivement, il y a eu des grèves dans le monde du nucléaire, comme on dit. Donc depuis plusieurs semaines, des travailleurs et travailleuses donc du nucléaire ont installé des piquets de grève devant les centrales. Le mouvement touche l'ensemble du territoire et notamment les 19 sites français. Et donc, la mobilisation semble d'être d'une ampleur a priori inédite. Donc, pour donner quelques exemples, par exemple, ce mercredi cette semaine, donc, des blocages ont eu lieu à notre très chère centrale du Bugey dans l'Ain, dans laquelle justement la veille, les travailleurs et travailleuses avaient mis à l'arrêt l'un de ses réacteurs, le numéro 5. Dans d'autres centrales, c'était des barrages filtrants qui ont été mis en place, donc par exemple à la centrale de Chouze, Cruast, Saint-Laurent, etc., etc. Et également à la centrale de Gravelines, où ce sont 150 salariés quand même qui sont descendus en bus jusqu'à Paris pour manifester dans le cortège interprofessionnel aux côtés de leurs collègues de la centrale de Nogent. Donc voilà. Alors ce mouvement s'inscrit donc ce mouvement dans les centrales s'inscrit évidemment dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites, mais cette question des retraites recoupe très largement beaucoup d'autres soucis auxquels sont confrontés les salariés du nucléaire. Et quand on parle de salariés dans le nucléaire, on ne parle pas que de EDF. Et on parle notamment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous-traitance. Et notamment Gilles Reynaud, président de l'association des sous-traitants du nucléaire Mazone Contrôlé, déclare que nous sommes les premiers concernés par la dégradation des conditions de travail. 80% des activités dans le nucléaire sont sous-traitées. On est majoritaire dans le gardiennage, le démantèlement et la radioprotection. Alors que le gouvernement pousse à faire du nucléaire low cost, on sert de cobaye, mais nous ne sommes ni de la chair à patron, ni de la chair à radiation. Donc si les centrales, avec leur immense cheminée, symbolisent très fortement l'industrie nucléaire, il s'agit d'un monde beaucoup plus large que ça. Les salariés sont éclatés dans plein de secteurs d'activité, comme par exemple les transports, notamment des matières radioactives, le milieu hospitalier, la sous-traitance mécanique et électrique des centrales, etc., etc. Et ce sont autant de manières de s'arranger avec les conditions de travail dans des milieux baignés de radiation. Et c'est par exemple le cas d'un travailleur transporteur de matières radioactives. Ce conducteur routier, employé en sous-traitance par la société Isolife, a été irradié par des colis radioactifs. En un an, il a reçu plus que la dose maximale autorisée pour les travailleurs du nucléaire, dose qui est déjà 20 fois supérieure à celle établie pour le grand public. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, la partie immergée de l'iceberg. La société en question n'a pas pris le soin, évidemment, de vérifier la dose déjà reçue par le travailleur avant de l'embaucher, et les sous-traitants se renvoient généralement la responsabilité, tandis que les personnes se font empoisonner un peu plus à chaque fois. Et parce qu'il s'agit d'un travail exposé et qu'on ne deal pas avec les radiations, le code du travail trouve des solutions pour autoriser le sale boulot. À titre d'exemple, les doses autorisées, donc par exemple pour le grand public, sont de 1 millisievert par an. Pour ceux qui commencent déjà un peu à travailler dans le nucléaire, c'est de 6 millisievert par an. Et pour ceux qui sont considérés comme des personnes exposées, c'est 20 millisievert par an. Pour les 6 et les 20, on parle de catégorie A et de catégorie B dans le milieu professionnel du nucléaire. Et donc là, par exemple, le fameux transporteur était dans la dernière catégorie, c'est-à-dire B, et il ne transportait que des déchets radioactifs, donc les petits camions que vous pouvez peut-être voir aussi des fois sur les routes. Donc voilà, le monde du nucléaire, c'est aussi ça. Et ces conditions de travail dénoncées par la zone contrôlée et les syndicats, donc là en ce moment, sont aussi à mettre en regard avec les nombreux incidents qui surviennent sur l'ensemble du parc nucléaire français, et notamment à l'heure des visites décennales dans les centrales, où celles-ci cumulent les incidents, les fuites, les défauts de soudure, les violations du code de travail. Alors pour rappel, une visite décennale, c'est un contrôle technique comme pour les voitures, mais tous les 10 ans. Et quand on voit le nombre d'incidents par mois qui se passent dans les centrales en général en France, ça fait vraiment, vraiment pas rigoler. Et donc, notamment, alors d'ailleurs sur ces fameuses visites décennales, je vais m'arrêter ici, mais ça fera l'objet d'un traitement un peu plus particulier dans un prochain Canu Info. Notamment avec des perles assez magnifiques sur Flamanville et le Bugey. Et là, je crois que maintenant, on va rester dans le monde du nucléaire et on va enchaîner sur Bure.
Oui, à Bure se profilent 2 semaines de rencontres. Donc, la première se déroulera du 24 février au 1er mars et sera en mixité choisie sans Mexis. Elle est organisée par le collectif Les Bombes du 55. Et voici quelques idées lancées pour le programme. Donc, des points sur la lutte à Bure et un tas de documentation autour du projet, des discussions sur nos pratiques de lutte sans Mexis, des ateliers arpentage de livres sur l'écoféminisme et les luttes de meufs dans les luttes antinucléaires, un atelier autogynéco, un atelier autodéfense, un atelier DIY ta cuisine du genre électricité, plomberie, un atelier démontage, fabrication et réparation de vélos, une caravane bibliothèque féministe toute la semaine, des balades et divers chantiers dans divers lieux de la lutte. Pour plus d'informations, vous pouvez aller consulter leur blog qui est donc bombeatomique.noblogs.org.
Voilà, et juste après, il y aura une semaine de rencontres autour de l'anticarcéral. Elle aura lieu, elle, juste à côté de Bure, sur le terrain de l'ancienne gare de Luméville du 2 au 8 mars. Donc l'idée, c'est de prendre du temps pour se rencontrer entre personnes de différents pays lors de temps formels et informels de discussions, ateliers, projections. Donc les thématiques abordées, ça serait les suivantes. Donc la répression, l'antirépression, les frontières, nos borders, les questions de genre, LGBTQI+, les prisons pour femmes, la cavale, l'abolition de la prison. Discussion autour de vision anarchiste de la justice, la loi, le crime, la punition. Il y avait aussi l'envie de prévoir des temps de lecture de correspondance avec des personnes en prison, des ateliers d'écriture aux détenus. Chacune est bienvenue à proposer un atelier. Vous pouvez contacter les personnes qui organisent pour l'annoncer ou vous pouvez les contacter si vous avez des besoins spécifiques, personnels ou techniques. Un truc à savoir, c'est que la zone autour de Bure, elle est très surveillée. Les patrouilles sont fréquentes, donc quand il y a des événements qui sont annoncés publiquement, comme là c'est le cas, les contrôles sont beaucoup plus fréquents. Avant de venir, c'est cool de consulter le site. Il y a le brief légal en contexte burien. Il est dispo en plusieurs langues sur le site, sur burburbure.info. Voilà.
D'autant qu'il n'y a pas beaucoup de routes qui mènent à Bure.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et voilà, de retour au Canu Info, de retour sur Radio Canu et de retour dans la merde que c'est le salariat. On avait envie de vous parler là d'une nouvelle petite mesure qui est faite en Indre-et-Loire. Alors l'Indre-et-Loire, c'est aussi dit la Touraine, et c'est là où se situe Tours par exemple, donc c'est dans l'ouest de la France. Et donc c'est un des départements où on a mis en place ce fameux journal de la recherche d'emploi. Alors qu'est-ce que c'est ce journal de la recherche d'emploi ? Vous le savez sûrement si vous avez été au chômage un moment dans votre vie, chaque mois c'est un peu le rituel, on va s'actualiser sur la page de Pôle emploi, et notamment on répond à cette question, avez-vous travaillé ? Et on répond glorieusement non. Eh bien, ça ne suffit plus. Et notamment en Indre-et-Loire, il va falloir maintenant, en tout cas depuis mardi le 28 janvier, remplir tout au long du mois son journal de la recherche d'emploi. Alors, serons-nous radiés suivant nos réponses ? Dans son communiqué, la coordination des intermittents et précaires indique avoir demandé des explications sur ce nouveau journal et avoir obtenu, je vous dis, les réponses suivantes. Alors, vous n'êtes pas forcément concerné, cette démarche n'est pas obligatoire, ce n'est pas du contrôle. Ah bon ? Ces réponses a priori rassurantes tranchent avec le ton qu'on trouve par ailleurs. Sur l'application Pôle emploi, par exemple, les personnes inscrites ont reçu le message suivant. Vous devrez, alors devrez, ça sous-entend quand même l'obligation, à partir du 28 janvier, donc ce mardi, déclarer vos démarches de recherche d'emploi. Quant au texte du décret du 26 juillet 2019 organisant l'expérimentation du journal de la recherche d'emploi, il parle bien d'une obligation de renseignement du journal. Il ne s'agit donc pas, comme le dit la voix off de la vidéo de Pôle emploi, d'un moment permettant de prendre du recul sur vos recherches, mais bien d'un nouveau type de contrôle auquel doivent se soumettre les chômeurs et les chômeuses. Donc, malgré le ton rassurant de Pôle emploi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Cela n'aura aucun impact sur vos allocations. Les précaires ne s'en laissent pas compter. On a trouvé un petit bout de communiqué des précaires du Doubs. Je ne situe mal le Doubs, mais j'imagine.
Là, tu peux souhaiter. Non, reste. Non.
J'avais fermé les micros, tu peux le redire, hein, je crois.
Le Doubs, du coup, c'est un petit peu au nord du Jura, Besançon et compagnie, quoi. En dessous de, au-dessus de l'Ain.
Ok. Ouais. Autre département, du coup, touché par cette fameuse expérimentation. Mais alors, qu'est-ce qu'ils nous disent un peu ces précaires du Doubs ? Nous ne voyons pas d'un bon œil ce nouvel outil dont la mesure où nous sommes déjà soumis à des accompagnements avec des conseillers et des conseillères. Si dans un premier temps, certaines réponses en provenance du service public de l'emploi peuvent laisser entendre une étape dite facultative, nous ne savons toutefois pas comment vont être traitées les données, ni comment va évoluer le questionnaire au fil du temps. Quand bien même on nous assure une mesure non punitive, quid d'une série d'actualisations de 3 mois chômés sans réponse au journal ? Devrons-nous fournir d'autres preuves ? Serons-nous convoqués plus souvent ? Serons-nous radiés suivant les réponses ? Nous refusons ce mode d'actualisation. Nous demandons à Pôle emploi de supprimer cet outil inadapté et surtout très irrespectueux. Non à la suspicion permanente de malhonnêteté des demandeurs et des demandeuses d'emploi. Alors que la dernière réforme de l'assurance chômage durcit les conditions qui permettent d'ouvrir des droits et se traduira par une chute brutale du montant des indemnisations, et que le gouvernement a les yeux rivés sur l'évolution des chiffres du chômage, difficile de croire que ce journal ne constitue pas à terme un outil supplémentaire pour procéder à des radiations.
Et alors maintenant ça va faire boum.
Et ouais, ça fait boum boum boum, mais c'est pas les radiations. Qu'est-ce qui fait boum boum boum? Eh ben c'est la nouvelle grenade du ministre de l'Intérieur. Le Castaner a annoncé le 26 janvier la fin de l'utilisation des Gli F4. Alors nous au Canu Info du vendredi, on a dit c'est super, merci Castaner. Et en fait Castaner, figurez-vous qu'il nous a fait un petit coup dans le dos, parce que effectivement il a arrêté la Gli F4, mais pas parce qu'il s'est rendu compte que c'était hyper dangereux, qu'il y avait tout un tas de personnes qui étaient mutilées, mais tout simplement parce que le fabricant des grenades à arrêter de fabriquer les grenades. Du coup, facile d'arrêter de acheter et utiliser des grenades. La première raison pourquoi on arrête d'utiliser ces grenades, et bah tout simplement c'est parce que c'est hyper dangereux à produire. Il y a eu une explosion sur le site Céveso, du coup d'Alessetex, qui est du coup l'entreprise qui fabrique les grenades, le 24 juin 2014, et du coup cette explosion a coûté la vie à une salariée, Nathalie Desilles, ouvrière affectée à la fabrication des compositions pyrotechniques de ces grenades. Et la deuxième raison de l'arrêt de la production de la Gli F4, et bah tout simplement parce que c'est, il n'y a que la France qui achète des grenades Gli F4, alors que tous les autres pays refusent d'utiliser des grenades offensives contre sa population. Castaner a du coup décidé en mai 2019 de remplacer la grenade Gli F4 par une nouvelle grenade. Apprenez son nom, ça s'appelle la GM2L. Et il en a parlé du coup dans son mémoire de défense devant le Conseil d'État en mai 2019. On t'écoute Castaner.
Il convient de préciser que face à la décision unilatérale du seul fabricant de Gli F4 d'arrêter la production de ce modèle, le ministre de l'Intérieur a été contraint de trouver une arme de substitution suffisamment puissante pour remplacer la Gli F4.
Et donc du coup on se rend compte que cette nouvelle grenade, qui n'est plus la GF4 mais qui s'appelle la GM2L, eh bien, est tout aussi puissante, tout aussi bourrine et va être tout aussi dangereuse pour les manifestants et manifestantes et toutes les personnes qui se trouvent à proximité. Qu'est-ce qu'elle fait cette grenade? Eh bien c'est une grenade assourdissante. Elle va produire deux effets. Le premier est un effet irritant instantané. En fait elle disperse un petit nuage de lacrymo, donc tout comme la grenade Gli F4, et en plus elle fait un gros bruit, et lui qui est plus fort que la grenade Gli F4, on atteint 160 décibels à courte portée et 155 décibels à 10 mètres de cette grenade. Je ne me rends pas compte de ce que ça fait, mais il y a plusieurs personnes qui peuvent dire que ça peut rendre sourd. En fait, c'est hyper dangereux aussi. Et donc, du coup, la grenade GM2L, elle a plus de TNT, mais elle a quand même un dispositif pyrotechnique qui est hyper puissant et ses effets lacrymogènes et sonores sont renforcés par rapport à la Gli F4. Donc, elle reste une arme de guerre au sens du code de la sécurité intérieure, et du coup, à l'instar de la Gli F4, elle relève de la stratégie de la peur et de la violence qui est mise en place par le gouvernement dans la gestion des manifestations et des mouvements en général qui peuvent remettre en cause sa légitimité.
Pour un petit rappel quand même sur les décibels, à partir de 100 décibels, on a des douleurs aiguës. À partir de 130 décibels, c'est des détériorations définitives qu'on a dans l'audition. Et donc là, ces nouvelles grenades, c'est 160 décibels.
C'est moche.
And now, in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubric.
Cronaca internazionale.
Alors, mi-janvier, la bibliothèque queer féministe située à Lausanne, en Suisse romande, a finalement réouvert ses portes après avoir trouvé des nouveaux locaux juste sous la gare. Donc, cette bibliothèque, c'est la Molène. Une molène, c'est une fleur que vous reconnaîtrez facilement à sa longue tige et ses petites fleurs jaunes. Elle adore pousser dans les endroits abandonnés, comme par exemple entre les dalles de béton des parkings abandonnés. Cette bibliothèque, elle est autogérée. Elle est entièrement en mixité choisie sans maxis. Les livres et les zines qui remplissent les étagères abordent des thèmes liés au féminisme, au pluriel, et à la culture queer. Aussi, un espace pour les enfants a été aménagé et un projet de livre audio est en cours. Les permanences ont lieu une à deux fois par semaine et les locaux sont disponibles pour toutes les personnes, les collectifs qui souhaitent organiser des ateliers, des projections et des rencontres tant qu'ils correspondent à la charte du lieu. Si vous voulez des infos, vous pouvez aller sur le blog, c'est bibliolamolène.noblogs.org.
Et puis, on va retourner en France, mais pour vous parler du racisme anti-asiatique. Parce que si on entend parler depuis quelques jours, quelques semaines, de l'épidémie du coronavirus, On entend moins parler de l'épidémie de racisme anti-asiatique qui s'ensuit. Du coup, effectivement, plus de 200 personnes sont mortes au jour d'aujourd'hui, plus de 10 000 cas confirmés. Le bilan de l'épidémie du coronavirus ne cesse de s'alourdir, mais qui entraîne dans son sillage une libération de la parole raciste dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pour contrer la puanteur raciste ambiante, une personne sur Twitter a lancé un hashtag. Le hashtag, vous savez, c'est un peu... c'est un truc qu'on peut mettre sur Twitter et après on peut suivre ce mot-là, voilà, expliqué en mode 20e siècle. Et ce hashtag s'appelle « Je ne suis pas un virus », qui rappelle que beaucoup de personnes utilisent de manière indifférenciée chinois pour asiatique, mettant de côté toutes les nationalités et diversités culturelles, ethniques, etc., qui composent ce continent. Faut-il rappeler que l'Asie est un continent et non un pays ? Du coup, ça a été le premier tweet qui a été mis à côté du hashtag « Je ne suis pas un virus ». Ça a été relayé notamment par la réalisatrice Amandine Gay, et ça a très vite provoqué un tollé et des centaines de témoignages ont afflué. Et quand on lit les témoignages, c'est vraiment affligeant. Du coup, quand on zone sur Twitter, qu'est-ce qu'on peut lire ? Un témoignage, par exemple. On en parle que je suis française d'origine polonaise vietnamienne et donc les yeux bridés, et que des gens dans le métro me dévisagent et mettent leur foulard sur leur nez quand je suis près d'eux. Un autre témoignage, par exemple, qui nous explique qu'une personne, lors d'une promenade le dimanche en famille au jardin du Luxembourg à Paris, des personnes la dévisageaient sans gêne et l'esquivaient en murmurant « Ne t'approche pas de lui, il a peut-être le virus ». Pour la créatrice anonyme du hashtag « Je ne suis pas un virus », la presse joue aussi son rôle dans le relais raciste. Notamment, on peut citer le Courrier Picard. Qu'est-ce qu'il a fait, le Courrier Picard ? Dans sa une de samedi dernier, et il a titré « Alerte jaune ». Alors, dans les pages du quotidien régional, l'intitulé de l'éditorial, donc « Le péril jaune », est également plus que problématique. Donc cette formulation, s'il faut le rappeler, le péril jaune, renvoie directement à un stéréotype raciste véhiculé depuis la fin du 19e siècle, où l'essor économique et démographique de la Chine fascinait autant qu'il inquiétait. On peut dire finalement que le Courrier Picard nous a encore offert une leçon de racisme décomplexé. Autre exemple, par exemple, la chronique de Nicolas Canteloup sur Europe 1, avec son appel à la décontamination pour toute personne qui voit un Chinois ou une Chinoise, je cite. On peut aussi vous rappeler que le défilé du Nouvel An chinois a été annulé à Paris ce dimanche, et que finalement, si ça a été mis, ça a été dit pour des raisons de précaution, on ne comprend pas vraiment, on rappelle qu'il y a 5 cas en France, dans toute la France, et que ça n'a aucun rapport avec le défilé du Nouvel An chinois. Et même Sacha Lingyong, qui est le responsable du pôle citoyenneté à l'Association des Chinois, dit que plus que le risque sanitaire, c'est la crainte de voir la population d'origine chinoise stigmatisée qui a expliqué en partie l'annulation des festivités du Nouvel An. Donc, à un moment donné où la banalisation du racisme fait écho aux chiffres alarmants dévoilés dimanche dernier dans un bilan du ministère de l'Intérieur qui explique quand même qu'en 2019, le nombre de faits racistes et xénophobes a augmenté de plus de 130% après avoir enregistré des replis sur les deux dernières années. On amène tout le monde, à lutter aussi contre le racisme anti-asiatique qui est peut-être moins visibilisé par des collectifs peut-être moins connus ou qui a moins le lien, mais qui est extrêmement présent dans les mentalités. Et voilà. J'ai fini et ça va bientôt être l'heure de l'agenda.
Alors, ou peut-être qu'on n'a pas le temps de l'agenda, mais peut-être que Lebowski, tu peux nous rappeler quelques grandes dates importantes à retenir.
Peut-être pour l'agenda, quand même, on peut vous faire un petit agenda de la prochaine semaine
Allez.
De lutte.
Allez, vas-y. Alors, il y a demain, quand même, samedi 1er février à 14h, une manif gilet jaune. Alors, attention, faites attention, c'est à 14h, ça, c'est comme d'habitude. Par contre, ce n'est pas à Bellecour, c'est à Foch, je rappelle le métro Foch, pas loin du lycée de Harry Houdini. Il y aura aussi mercredi 5 février à 17h un cortège au flambeau. Alors là, c'est pareil, c'est à Foch, c'est facile quand même en fait. Tout se passe à Foch. Et il y aura à 17h30 à Lyon 2 des barrages filtrants pour déblayer les amphis. Pourquoi 17h30, je sais pas. Et il y aura une soirée autour de la réforme des retraites organisée par le collectif de la presqu'île Interpro 145. Alors c'est vrai que c'est à 19h, on ne sait pas où c'est, mais vous retrouverez tout ça.
Et on pense que c'est plutôt vers Bellecour à la fin de la marche au flambeau.
Et jeudi 6 février, c'est la prochaine grosse journée de mobilisation contre la réforme des retraites et son monde. Ah non, c'est la loi travail, je me suis planté. Du coup, 9h, plusieurs rendez-vous, 9h, 33 rue Moncey, droit des femmes, une AG féministe. À midi, un rassemblement à Lyon 2, mais je pense que c'est Lyon 2, la fac, et non pas Lyon 2, l'arrondissement, on appelle ça. Et du coup, il y aurait des actions appelées devant le lycée Ampère et le lycée Herriot, c'est pas moi qui le dis, c'est Rébellion. Et à 11h30, il y aurait une grande manif Interpro à la manufacture des tabacs qui part. Donc ça, c'est comme d'habitude, vous inquiétez pas. 11h30, 200 soucis jusqu'à Bellecour. on se perd pas, c'est nickel.
Et on rappelle que la rue de la Barre sera toujours interdite à la circulation pour protéger le nouvel hôtel Dieu, temple du capitalisme. On vous dit aussi qu'il y a un petit festival moult, vous pouvez chercher sur internet de poésie, on retrouve plusieurs personnes des Canu Info tout le week-end.
C'est
et pour le reste de l'agenda,
de l'Elysée.
Vous pouvez aller sur rebellion.info bien sûr.
Et tout de suite.
Radio Canu.
Canu Info du vendredi.
Et alors à Cap, par exemple, ça peut vouloir dire les antinucléaires et les chômeuses arrivent à Bure.
Ou alors ça peut vouloir dire abat le capitalisme affreux et les banquiers.
Et ça peut vouloir dire aussi affranchi avec un E contre l'armée Blanquer.
Bravo, bravo. Et merci d'être venu, toute cette équipe de lycéens et lycéennes.